Le livre des Proverbes. Bon, pour ceux qui viennent régulièrement, ils sont au courant, des autres je l'explique, c'est que pendant tout le mois de février, nous lisons ensemble donc, le livre des Proverbes, donc chapitre par chapitre, ce qui fait que toute l'Église parcourt ce livre. Et donc c'est un livre qui nous parle de la sagesse, ou le bon sens. Et nous avons déjà dit qu'il ne s'agit pas de promesses de Dieu, mais de généralités que l'on observe dans ce monde où il y a le péché, donc les choses ne se passent pas toujours comme il faut, mais ce sont des bons conseils pour vivre comme Dieu le voudrait. Et donc vraiment, il y a des choses très très intéressantes dans ce livre. Je vais commencer avec une citation, non pas de la Bible, mais de quelqu'un d'autre. L'homme est un animal social. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ça remonte très loin. Voilà. Personne ne sait.
La Fontaine?
Non, c'est encore plus loin que ça. C'est Aristote. Ça va très loin. C'est Aristote. Donc voilà, une expression assez célèbre. L'homme est un animal social. C'est normal. C'est normal. Parce que nous sommes, bon c'est un peu mon introduction avant d'aller dans la question des relations, mais pour comprendre pourquoi, c'est normal que l'homme soit un animal social, parce que nous avons été créés par un Dieu trinitaire. Et donc on a vu ça un petit peu dans Jean 17. Père, Fils et Saint-Esprit en relation les uns avec les autres depuis toute l'éternité. Alors quand Dieu dit, dans Genèse 1, 26, faisons les humains à notre image, à notre ressemblance. Une grande partie de cela, c'est que nous sommes capables du relationnel. Nous aurons des relations les uns avec les autres, comme il y a au sein de la Trinité. Et dans Genèse 2, 18, il dit, dans le contexte particulier, peut-être du mariage, mais quand même, je crois que la vérité est là pour tout le monde, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, je ne sais pas si quelques-uns ont vu le film « Seul au monde », hein, donc c'était un peu ancien maintenant, il y a quelques années, où quelqu'un s'est retrouvé seul sur une île déserte pendant des années. Et il a fabriqué avec un ballon de basket un visage avec deux yeux, un nez, une bouche, qu'il a mis sur un bâton, pour avoir quelqu'un à qui parler. Il ne pouvait pas supporter la solitude autrement. Voilà. Je crois que c'est Tom Hanks qui était le comédien dans ce film. Mais le péché est passé par là. Et un des résultats de cela, c'était la difficulté de construire de bonnes relations. Dans Genèse 3, versets 7 et 8, on voit que l'homme et la femme ont honte, ils se cachent. La culpabilité qui mène à la honte, donc on se cache de Dieu. Puis on blâme les autres pour son comportement. Donc Adam dit, c'est pas moi, hein, c'est ma femme, hein, que toi Seigneur tu m'as donné, hein, c'est pas de ma faute. Et puis la femme dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Donc, voilà. On cherche à blâmer les autres, même Dieu, pour son comportement. Et puis, dans Genèse 3, 16, on voit qu'il y a un esprit de domination mauvaise qui s'installe malheureusement trop souvent dans les relations hommes-femmes, où la conséquence de la chute, où normalement, par une soumission joyeuse mutuelle, les choses se passent bien dans un couple, là, il est dit que tes désirs se porteront vers ton mari, mais il lui dominera sur toi. Donc, les relations ne sont plus non plus aussi faciles dans ce domaine-là. Et puis, au chapitre 4, c'est la violence qui mène jusqu'au meurtre, avec Caïn qui tue Abel. Je situe la problématique des relations dès le début c'est à cause du péché qui rentre dans le monde que nous avons des problèmes de relation. Mais, que fait le Seigneur? Il appelle les gens, tous les hommes, toutes les femmes, à la conversion. Et j'aime bien dire que quand quelqu'un se convertit, il y a deux choses qui se passent en même temps. On a des traces un peu partout, mais là j'ai cité des versets dans Éphésiens chapitre 2. Il y a deux choses qui se passent en même temps. Il y a la réconciliation entre Dieu et la personne qui se tourne vers lui pour demander la grâce. On est réconcilié, donc la relation est rétablie. Mais en même temps, Dieu commence à reconstruire les relations, les bonnes relations, parce qu'en fait, il est en train de reconstruire l'image de Dieu en nous qui était ternie, tordue par la chute. Donc il y a deux choses qui se passent. On est réconcilié avec Dieu, et la conséquence, c'est apprendre à ressembler à Dieu pour avoir des bonnes relations les uns avec les autres, que ce soit dans la famille, au sein de l'Église, etc. Bon, Éphésiens 2, 8, qui dit, verset qu'on a, on connaît bien, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par la moindre de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Hein. Tout vient de Dieu. Mais un peu plus loin dans le même chapitre, il parle de la réconciliation entre juifs et non-juifs au sein de l'Église. Et il dit que Jésus est notre paix, lui qui des deux groupes, donc non-juifs et juifs, n'en en fait qu'un. Et il a créé en lui-même un seul homme nouveau, à partir des deux, une seule nouvelle humanité. Ça c'est le verset 15. Donc, verset 16, il a voulu les réconcilier l'un à l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps, au moyen de la croix. Ce qui fait que, dans la Bible, dans le Nouveau Testament en tout cas, le Nouveau Testament, il n'y a pas un seul commandement qui ne concerne pas les relations. À la différence des religions qui vont demander, par exemple, les juifs qui doivent manger kasher, certains portent les kippas ou laissent pousser les cheveux, enfin, il y a des trucs comme ça, ou les musulmans avec le ramadan ou les femmes voilées, etc. Il n'y a rien de tout ça dans le Nouveau Testament. Tous les commandements concernent les relations à établir les uns avec les autres. Et même, on l'a mentionné à l'étude biblique mercredi soir, quand on pose la question à Paul sur l'attitude à avoir par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles, on va dire, ça c'est pas une question de relation. Mais en fait, tout le raisonnement de Paul, c'était, qu'est-ce que ça change dans les relations avec les autres? Donc, il ne traite pas le sujet en soi directement, mais par rapport aux conséquences que là, ça peut avoir dans l'Église quand il y a des gens qui ont des idées différentes à ce sujet. Alors, comment faire concrètement alors pour bâtir des bonnes relations? Et c'est là où on arrive au proverbe, et je vais vous proposer trois choses ce matin. Comment gérer les situations conflictuelles, qu'il faut maîtriser sa langue, même si Michel en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière, et puis être un encouragement aux autres. Bon. On aurait pu dire beaucoup d'autres choses, vous vous rendez compte du nombre énorme de pensées différentes qu'il peut y avoir dans les proverbes. Mais on va commencer avec le premier, donc gérer les situations conflictuel. Alors, je vais lire beaucoup de versets ce matin. Si vous avez un stylo, vous pouvez les noter et revenir dessus. Le plus important, c'est de retenir le fond. Proverbe 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence. Tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Combien de gens des fois on entend « Je m'énerve !»« Ça m'énerve !» C'est l'expression qu'on dit assez souvent. Il dit, celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence. Et j'ai regardé, en fait, ça c'est ressembler à Dieu. Parce que 14 fois, j'ai compté, 14 fois dans l'Ancien Testament, on lit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. 14 fois, j'ai trouvé lent à la colère. Donc, être lent à la colère est répété au chapitre 19 et le verset 11. L'homme avisé est lent à la colère et met sa gloire à passer par-dessus une offense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en français très courant, il ne faut pas être rancunier. J'ai cité un certain nombre de proverbes il y a 15 jours, et j'ai dit le début du proverbe, et tout le monde connaissait la suite chaque fois. Il y en avait un que j'ai mentionné, la vengeance est un plat qu'on mange froid. C'est la rancune. On se fait du mal à soi-même, en fait, en étant rancunier. Et donc, il faut être lent à la colère et pas rancunier. Deuxième chose, ce sont des conseils très pratiques. Deuxième chose, Proverbe 15 et le verset 1, une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Et là, je vais raconter ce quoi que j'ai déjà fait, mais tout le monde ne connaît pas mes anecdotes, donc je vais quand même le redire. Quelque chose que nous avons vécu avec Marie il y a bien des années, quand on était encore à Nancy, et qui est une belle illustration de ça, où là, heureusement, on a eu la réaction d'avoir une réponse douce. Alors j'explique le cas, on était on habitait une résidence et on venait d'acheter une nouvelle voiture, mais on n'avait pas encore vendu l'ancienne qui était sur le point d'être vendue. Donc dans la résidence, il y avait un parking souterrain où on laissait notre voiture. Moi, je dis, mais qu'est-ce que je fais avec la deuxième? Donc je l'ai garée le long d'un mur qui gênait vraiment personne, mais enfin, c'est pas grave. Je descends le lendemain. Je trouve un mot sur la pare-brise en disant « Vous êtes un tricheur, vous ne payez pas votre place. Si vous ne bougez pas la voiture d'ici ce soir, je vous crève les pneus. » Gentil, hein? Mais, au moins, ça n'arrive pas souvent, la personne a signé son nom et son numéro de téléphone. Il était membre du conseil syndical. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné avec une réponse douce. J'espère, et en tout cas. Et donc, il y avait plusieurs raisons, en fait, qui nous ont montré que c'était la bonne réponse. La première raison, c'est que quand on lui a téléphoné, première chose, on a constaté, en fait, que c'est la Marie de la maîtresse d'une de nos filles. Donc, heureusement qu'on n'avait pas mis, on ne s'était même pas mis en colère avec le mari de l'institutrice. Deuxième chose, il a dit, ah bien, moi je comprends, je comprenais pas qui vous étiez, etc. Mais écoutez, moi j'ai une place libre en ce moment, vous me ferez l'honneur de laisser votre voiture en attendant à ma place, enfin, etc. Donc voilà, donc j'avais une place pour garer la voiture. Troisième chose, ils ont dit, ça faisait un moment qu'on se croisait un petit peu, mais on aimerait vous inviter, un goûter ou quelque chose comme ça, un goûter chez eux. Donc, on était chez eux et on a commencé à parler de la foi, de notre foi. Et je lui ai passé un livre, je ne me souviens plus du titre, mais c'est un livre un peu d'évangélisation de John Stott. Donc, je ne sais pas s'ils étaient catholiques pratiquants ou non. En tout cas, il m'a dit que ce livre est absolument remarquable. Je suis ami, en fait, avec la personne qui dirige la librairie le procure. Donc. Et donc, je lui ai demandé d'en commander une dizaine, parce que ce livre est tellement bon. Donc, ils l'ont placé sous les rayons de cette librairie catholique. Bah, tant de choses qui ont découlé du fait qu'on avait fait une réponse douce à cette personne. Ça n'arrive pas toujours, mais quand même, une réponse douce calme la fureur. Un bon principe. Proverbe 17, verset 14. S'engager dans un conflit, c'est ouvrir une vanne. Avant que la dispute n'éclate, retire-toi. Donc, il faut aussi regarder le voyant lumineux qui commence à clignoter. Attention, là, il y a un conflit qui se prépare. C'est le moment de se retirer. Bon, Marie est très forte pour ça. Je veux dire, attention David. Donc, se retirer. C'est autant de conseils très très pratiques. Et puis, Proverbe 17, verset 3. Toujours dans la situation. Oui, c'est ça. Je l'avais changé sur le PowerPoint, mais pas sur mon papier. Okay. Proverbe 17, 13. Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le mal ne quittera pas sa maison. Ne pas rendre le mal pour le mal ou rendre le mal pour le bien. Au contraire, c'est pour ça que j'ai mis quelques autres versets du Nouveau Testament, le Seigneur nous demande de remplacer plutôt le mal par le bien. Éphésiens 4, 28, c'est un bon exemple de cela et qui peut nous aider à voir le principe. Que celui qui volait cesse de voler. Première partie du verset. Est-ce que ça suffit? Les gens qui disent, jamais volé, j'ai jamais tué. Je ne sais pas si vous avez entendu ça des fois. Jamais volé, j'ai jamais tué. Mais ça ne suffit pas. La deuxième partie de ce verset. Mais qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, remplacer le mal volé, non pas par l'inaction, mais par le bien. De travailler pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. On remplace le mal par le bien. Romains 12, 17, c'est le même principe. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Donc c'est une action positive à faire. Faire du bien autour de nous. C'est pas simplement éviter le conflit, mais faire du bien. Autour de nous. Et puis, 1 Thessaloniciens 5, 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Et puis, un dernier verset, toujours dans Proverbe 17. Décidément, il y a pas mal de bons versets dans Proverbe 17. Celui qui couvre une offense recherche l'amour, celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Donc, ne pas remettre sur le tapis. Il n'y a rien de pire dans les relations. Ça peut être dans le couple, mais ça peut être entre amis, etc. C'est-à-dire, ah oui, mais la dernière fois, on s'était pardonné, puis on remet les choses, on rappelle un passé qui normalement devait être couvert, donc par une partie de ce verset, on remet sur la table, on remet sur le tapis la faute. C'est peut-être une certaine rancune qui est là. Moi, je sais que je dois lutter contre ça. C'est facile, j'ai une très bonne mémoire, malheureusement. Ce qui fait que on a du mal à oublier des fois. Mais ce n'est pas bien. Il ne faut pas rappeler quelque chose de mal dans ses discours. Voilà. Quelques conseils très pratiques sur les situations conflictuelles. Deuxième volet de ce que je voulais dire ce matin, c'était maîtriser sa langue. Bon, peut-être ce sont des versets que vous avez déjà vus la semaine dernière, mais c'était difficile de parler de relations sans revenir sur la question de la langue, parce qu'en fait, c'est ça qui nous permet d'avoir une relation avec les autres. Hein, donc, on parle. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter? La première chose, Proverbe 12, 8, c'est de parler à la légère. 18, pardon. Proverbe 12, 18. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. La parole qui part à la légère, et on ne pense pas aux conséquences que cela peut avoir dans la tête de l'autre, c'est comme une épée. C'est en quelque sorte se mettre à la place des autres, se mettre dans ses baskets, essayer de comprendre, si je dis ça, qu'est-ce que cela risque de provoquer en lui comme sentiment. Et parfois on peut dire, bon, c'est pas grave, mais ça peut faire mal. Même les blagues. Hein. Je connais des très bonnes blagues. C'est les Belges. La meilleure blague que je connais, c'est à la fois un Belge et un Suisse, mais je ne le dirai pas. Parce que ça peut faire mal de faire des blagues. Donc on maîtrise sa langue, on ne parle pas à la légère. Attention aussi aux calomnies. Proverbe 11, 13. Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, tandis que l'homme digne de confiance les garde. Ou le chapitre 20 et le verset 19. Celui qui propage des calomnies, dévoile des secrets, ne fréquente pas l'homme trop bavard. Donc, partie de maîtriser sa langue, hein, de ne pas être trop bavard. Le bavardage peut faire énormément de mal. Pourquoi on le fait? Je me suis posé la question. C'est en quelque sorte, c'est souvent le cas... parmi des amis ou dans une entreprise, on bavarde sur quelqu'un d'autre, parce qu'en fait, ça peut être bien vu. Quand je parle à l'autre personne, je dis, mais toi et moi, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme celle-là. Donc, on bavarde, et donc à partir de ce moment-là, on dit du mal de la personne. Parfois, c'est pour paraître intéressant aussi. Mais ce n'est pas comme cela qu'on construit de vraies relations. Donc attention à la façon dont on peut dire des choses à la légère ou le bavardage. Donc il faut dire la vérité. Proverbe 12, 22. Et vous avez remarqué que j'ai mis 3 points de suspension. Super. Compléter ma phrase après. Mais d'abord, il faut dire la vérité. Proverbe 12, 22. Les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Le mensonge est terrible, mais tellement répandu dans notre société qu'on parfois on ne sait plus où on se trouve face à quelqu'un. Donc le mensonge est terrible. Mais j'ai mis trois points de suspension. Parce que si on dit la vérité, Proverbe 17, verset 27, il faut savoir quel est le bon moment pour le faire. Toute vérité n'est pas bonne à dire à tout moment. Ce n'est pas qu'on dit des mensonges, mais il faut aussi parfois choisir le moment où on dit quelque chose. Et c'est pour cela que ce proverbe nous dit « Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. » Donc on n'est pas obligé de tout dire tout de suite à tout le monde. Il faut choisir le bon moment, on met un frein. Ça ne veut pas dire que l'on n'est pas honnête, mais c'est un peu comme Éphésiens 4 qui dit aussi qu'il faut dire la vérité, la suite de la phrase, dans l'amour. Il faut dire la vérité dans l'amour. Il y a les deux aspects, la vérité, l'amour. Et il faut que les deux soient là. Ça ne veut pas dire qu'on dit des mensonges, mais ça veut dire que si on balance la vérité à quelqu'un, souvent c'est pas la vérité, c'est les quatre vérités, comme on dit, c'est pas la même chose. Donc si on balance la vérité sans amour, c'est pas bien. Mais si par amour on ne dit jamais rien, c'est pas bien non plus. Il faut trouver les bons moments pour le faire. Et puis, une dernière chose, qui est un peu le contraire de la parole, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie. Il se couvre de honte. Il faut aussi écouter les autres. D'ailleurs, Jacques 1, 19, j'ai toujours été frappé de ça, parce que Jacques, c'est aussi un livre de la sagesse, hein, donc il y a beaucoup de ressemblances, dit « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Donc, à un certain moment, il faut aussi savoir écouter. Et non pas simplement ce qui est peut-être le propre de l'humain dans un sens, de ne pas uniquement parler de soi et de par exemple, d'écouter les autres, ou bien dans une conversation et en train de penser à ce qu'on va dire en réponse à la personne plutôt que d'écouter ce que dit la personne. Ça aussi, ils arrêtent. C'est cet égoïsme qui caractérise le péché qui fait qu'on n'écoute pas forcément les autres. Donc je pense qu'on doit aussi apprendre à écouter. Donc voilà un deuxième volet de conseils, gestion de conflits, maîtrise de la langue. Et la troisième chose ce matin, c'est être un encouragement. Être un encouragement. Proverbe 12, 25. L'homme peut rabattre l'inquiétude qui est dans son cœur, mais une bonne parole la fera tourner en joie. La personne, il refoule en quelque sorte, hein, ce que je comprends, rabattre l'inquiétude, il refoule un peu son inquiétude, l'inquiétude est toujours là. Mais quelqu'un qui dit une bonne parole d'encouragement, c'est mieux que de refouler son inquiétude. J'ai vu dans le Summer, ils ont dit ceci, le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. De même, Proverbe 15, 30, un regard lumineux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie le corps. Un regard lumineux réjouit le cœur, une bonne nouvelle fortifie le corps. Alors que, malheureusement, on dit que c'est le sport national en France, on aime bien râler, on aime bien se plaindre, on aime bien trouver ce qui ne va pas. Je crois que j'ai déjà cité cette image que j'ai vue dans une revue, je crois que c'était dans Le Christianisme, c'était un dessin humoristique de deux personnes qui se parlent dans la rue, deux amis qui se rencontrent, et il fait beau, on voit les oiseaux qui chantent, etc. C'est vraiment une très belle journée, et le premier dit « Qu'est-ce qu'il a fait mauvais hier ?» Et l'autre dit « Ah ben, t'as vu la météo pour demain, c'est pas mieux. » Alors que là, ils sont sous le soleil et tout. Et on peut très facilement être négatif. Hein. Et puis, Proverbe 25, verset 11. Donc, c'est également dire les bonnes choses au bon moment. Alors là, c'est très, très poétique. Tes pommes en or, décorées d'argent, voilà ce que sont des paroles dites à propos, ou dites au bon moment. Donc, c'est vraiment important de... Et c'est tout le contraire de ce que l'on voit ailleurs, donc dans les proverbes où plus d'une fois on parle d'une femme querelleuse, par exemple, il vaut mieux habiter une petite chambre là, d'une maison qu'une femme qui est comme une gouttière sans fin. Les hommes aussi peuvent être comme ça. Donc. Mais voilà, c'est un encouragement. Et je pense que c'est important. On dit des fois qu'il y a des personnes qui ont un ministère de découragement, qui vont dire des choses qui découragent plutôt que des choses qui encouragent. Donc, on arrive vers la fin, et je dirais ceci, d'après ce que je comprends ici, vers chapitre 17, 22, qui dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc il faut se dire, est-ce que j'ai un cœur joyeux? Est-ce que je cherche à avoir un cœur joyeux? Et comment on va faire? Je n'ai que deux conseils, mais qui ne viennent pas des proverbes, mais qui viennent du Nouveau Testament. La reconnaissance. 1 Thessaloniciens 5, 18. Il dit ceci, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Être reconnaissant et rendre grâce aide à avoir un cœur joyeux. Parce qu'il y a toujours des choses positives pour lesquelles on peut remercier le Seigneur. Donc, ça, c'est, doit être une sorte de on peut dire, de réflexe que l'on se donne, de rendre grâce en toute chose. La deuxième chose qui va un peu avec, c'est le contentement, dont il est question dans 1 Timothée 6 à 8. La piété est une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien à porter dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Donc il parle après de l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. Donc être content de ce que l'on a. J'aime bien les citations de saint Augustin qui disait que le contentement, je cite, c'est désirer ce que l'on possède. Je trouve que ça c'est très fort. C'est une façon de parler du contentement. Ce n'est pas désirer ce que l'on n'a pas, mais de continuer à désirer ce que l'on possède, et d'être reconnaissant et de rendre grâce à Dieu, et donc d'être joyeux. Donc voilà, j'ai trouvé dans les proverbes un certain nombre de conseils pratiques du comment faire, parce qu'on veut améliorer nos relations avec les autres, au sein de l'Église, avec les non-chrétiens, mais ce sont autant de petits conseil que le Seigneur peut nous donner ce matin, à prendre au sérieux, à méditer, à réfléchir et surtout à mettre en pratique.